Henri de Régnier, Le paradis retrouvé. C'est bien à tort que l'on montre en Arabie le tombeau d'Ève et que l'on prétend qu'Adam ne vécut pas plus de 930 ans. La vérité est tout autre, mais les légendes ont la vie dure et je crains fort de n'être pas cru en ce que je vais raconter. Je le tiens cependant d'une source sûre que je pourrais... Mais... Alors, au fait, sans plus tarder. Donc, contrairement à ce qu'on a faussement rapporté, nos premiers parents ne sont pas morts. Dieu, en les créant, avait, selon l'expression vulgaire, bien fait les choses et avait doué ces deux créatures d'une constitution exceptionnellement robuste. Elles étaient sorties de ses mains, si parfaitement conformées en force et en santé, que la mort n'avait pas eu de prise sur elles. Adam et Ève ont vaincu les efforts du temps. Ils sont toujours vivants et bien vivants. D'un pas égal, ils ont traversé les siècles et sont arrivés jusqu'au nôtre. Leur trépas n'est qu'un bruit mensonger, qui leur serait aisé de démentir, mais ils n'en feront rien, car leur longue expérience de l'existence leur a donné le goût de la retraite. Heureux qu'on ait perdu leurs traces au point de les dire défunts, ils jouissent de leur incognito et le défendent jalousement contre toute indiscrétion. Après avoir parcouru diverses régions de la terre et après avoir séjourné dans maints pays sous des noms d'emprunt, Adam et Ève ont fini par se fixer dans un petit village du centre de la France dont on m'a prié de ne pas divulguer le nom. Adam et Ève redoutent plus que tout les curiosités et celles de l'époque où nous vivons sont infinies. La presse dite d'information y est particulièrement avide de nouvelles sensationnelles, et si elle découvrait que nos premiers parents sont devenus de bons villageois, leurs portes seraient assiégées par les reporters et les photographes. On les accablerait de questions plus ou moins saugrenues, et dont certaines leur pourraient être fort pénibles. Imaginez quelques maladroits interrogeant Adam sur l'extraction de la côte à laquelle Ève doit sa naissance, ou quelques gaffeurs faisant allusion devant Ève au meurtre d'Abel par Caïn. Songez aux renseignements que l'on ne manquerait pas de leur demander sur le serpent et la pomme, ou sur l'ange au glaive de feu qui se tenait au seuil du paradis terrestre. La vie de ces vénérables exilés deviendrait impossible, et ces importunités compromettraient leur tranquillité. Leur grand âge a besoin de ménagement. Ils s'en rendent compte aussi, sont-ils extrêmement réguliers en leurs habitudes. Adam est un beau vieillard et Ève une charmante vieille dame. Elle a les occupations de son sexe et de son âge. Elle tricote et lit encore sans lunettes. Adam porte des besicles, ce qui l'empêche pas d'être un fin pêcheur à la ligne. Ève est fort volontiers casanière et silencieuse, tandis qu'Adam serait plutôt bavard. Pendant qu'Ève reste à la maison et évaque aux soins du ménage, Adam va de porte en porte et ne dédaigne pas un brin de causette avec les commères. Il a souvent le mot pour rire, mais sa bonhomie se retient de toute familiarité déplacée. Il est très populaire et ses concitoyens ont voulu le nommer membre du conseil municipal. Il s'en est défendu, mais on vient souvent le consulter et recourir à ses lumières. Il est fort avisé, aime à rendre service et se mêle un peu de médecine. Ève communique généralement à son voisinage les bonnes recettes qu'elle détient. Elle excelle notamment à la confection des confitures et ses bocaux de cornichons sont justement réputés. Adam et Ève sont un vieux ménage très considéré dans le pays. On les donne souvent en exemple. Leur maison modeste est entourée d'un petit jardin que cultive pour eux un de leurs voisins qui s'entend en semences et en repiquage. Parfois, Ève invite ce brave homme à boire un verre d'anisette ou de cassis. Adam le convie parfois aussi à fumer une pipe en sa compagnie. On ne voit guère chez eux d'autres visiteurs. Cependant, à d'assez longs intervalles, il en vient un dont l'arrivée suscite un véritable branle-bas. Ce jour-là, on met les petits pots dans les grands. Ève fait un brin de toilette et Adam va attendre le voyageur à la gare. C'est un fort gaillard, barbu et pourvu d'un nez puissant. De haute taille, un peu courbé, il marche à grandes enjambées en s'appuyant sur un gros bâton et fait résonner sur le pavé ses lourdes semelles à clous. Il a le teint jaune et les yeux bridés. De son feutre d'étain s'échappent les boucles d'une chevelure grisonnante qui lui retombe jusque sur les épaules, ce qui lui donne l'air d'un artiste, un peu l'aspect d'un musicien d'orchestre ou damassier d'atelier. Il parle haut, avec un accent marqué, et semble toujours pressé, si bien qu'Adam a peine à lui emboîter le pas quand il le ramène à la maison. Lorsqu'il a déposé son bâton et enlevé son feutre, il s'assied, mais bientôt se relève et ne cesse guère de marcher de long en large. Il ne peut, comme l'on dit vulgairement, tenir en place. Aussi ses visites sont-elles de courte durée, au grand regret d'Adam, qui a pour lui beaucoup d'affection, et d'Ève, à qui il fait galamment un doigt de cour. Quand il est parti, ses hôtes déplorent le destin qui l'oblige à les quitter et à ne jamais séjourner nulle part. Certes, les voyages ont du bon, mais il doit être bien pénible à la longue de n'avoir ni huche ni foyer et d'être toujours par bons et par veaux, toujours nomade et toujours en route avec ses gros souliers et son bâton. Et Adam et Ève plaignent de tout cœur ce pauvre monsieur à Ahasvérus, que l'on nomme communément le Juif errant, et qui traîne à ses semelles de la poussière de toute la terre. « Dieu le Père, soupire Adam, a été bien dur avec lui. D'ailleurs, j'ai guère à me louer non plus de mon Créateur. Il a été bien sévère envers nous, n'est-ce pas, Ève ?» À ces mots, Ève baisse les yeux, car, comme Adam, elle regrette le paradis terrestre. Mais il est convenu entre eux qu'on en parlera le moins possible de ce sujet, si plein de doux et de tristes souvenirs. Et cela leur est d'autant plus aisé qu'ils ont à commenter tout ce que, en sa brève apparition, leur a raconté M. Ahasvérus. En effet, ces interminables courses à travers le monde l'ont mis au fait de bien des choses. M. Ahasvérus a beaucoup vu et beaucoup retenu, et il est doué d'une excellente mémoire. Il sait mille histoires, plus divertissantes les unes que les autres. Sa conversation aborde tour à tour la littérature, les beaux-arts, la musique, les sciences. La politique ne lui est pas étrangère, et il a en finance les vues les plus étendues. Adam ne manque jamais de lui demander des conseils pour ses placements d'argent, et il s'en trouve bien. Mais la conversation de M. Ahasvérus ne s'en tient pas toujours à ces sujets élevés. Il a été plus d'une fois témoin des folies que l'amour fait commettre aux hommes, et en ses maintes anecdotes, qu'il compte avec infiniment d'esprit, de plaisantes, d'instructives, même galantes et de scabreuses, qui, si elles font rougir Ève, mettent Adam en belle humeur. Aussi les visites de M. Ahasvérus sont attendues avec impatience par nos premiers parents et sont un des plaisirs les plus goûtés de leur vie retirée dont elle distrait l'honnête monotonie. M. Ahasvérus leur fait trouver la journée courte et prolonger la veillée. Ce fut à l'un de ces passages chez ses vieux amis que M. Ahasvérus, fort en verve ce soir-là, leur apprit la grande nouvelle que les journaux venaient de répandre par le monde. Le bon Adam, ne lisant guère les gazettes, l'ignorait encore. Aussitôt bat-il de son haut à ce que M. Ahasvérus lui révéla. Une expédition de savants, organisée aux frais de la société panbiblique, avait retrouvé en Mésopotamie l'emplacement du paradis terrestre. Mieux encore, car il n'existait pas seulement des vestiges du célèbre jardin. Malgré quelques dégradations insignifiantes, il était demeuré dans un extraordinaire état de conservation. L'Éden avait échappé aux outrages du temps et au contact des civilisations. Son aspect n'avait pas changé depuis l'époque où ses portes avaient été closes et où son accès avait été interdit. Le lieu de la faute originelle était resté miraculeusement intact. Une compagnie internationale s'était formée pour exploiter cette merveille, et elle offrait des conditions de transport si avantageuses qu'elles étaient à la portée des bourses les plus modestes. Bien plus, des facilités de paiement rendaient ce voyage accessible à tous. Un parfait confort était assuré aux voyageurs. Des guides spéciaux présidaient à la visite et fournissaient les explications nécessaires. La cérémonie d'inauguration avait été un succès mondial. Des délégués de toutes les nations monothéistes y avaient représenté l'élite de l'humanité croyante. Désormais, l'affaire était lancée et elle était une bonne affaire. Les actions accusaient déjà une notable plus-value. Elles étaient cotées à toutes les bourses qui se respectaient. M. H. Verus avait tenu à prévenir ses vieux amis du rush qui se préparait. Il était lui-même un des actionnaires importants de la compagnie. À bon entendeur, salut! À peine M. H. Verus se fut-il tu, qu'il regretta d'avoir parlé en voyant Ève éclater en sanglots et Adam essuyer au coin de sa paupière une larme discrète. Ni l'un ni l'autre n'avait pu maîtriser l'émotion que leur causait la nouvelle qu'ils venaient d'apprendre, quoique, d'un commun accord, comme je l'ai dit, ils évitassent de s'en entretenir. Mais ils éprouvaient tous deux un profond regret du paradis perdu. Malgré tant d'années écoulées, et depuis qu'ils en avaient été chassés, ils conservaient un merveilleux souvenir du jardin de la tentation et du péché. N'était-ce pas là qu'ils avaient admiré ensemble les beautés de la lumière, le mystère de la nuit ? Écouter le murmure des eaux, respirer le parfum des fleurs, goûter la succulence des fruits. N'était-ce pas là qu'ils s'étaient connus charnellement? Certes, c'était là aussi qu'ils avaient encouru le châtiment de leur désobéissance, mais, malgré les tristes événements qu'ils en avaient éloignés à jamais, le jardin merveilleux ne leur restait pas moins dans leur mémoire d'avoir été le témoin de leur innocence et de leur bonheur, avant d'être celui de leur péché et de leur chute. Avant de retentir des échos de Jéhovah, les échos y avaient répété les paroles de leur tendresse. Que de fois n'avaient-ils pas revécu en pensée ce temps heureux où ils étaient le premier homme et la première femme en cet Éden dont tout leur était demeuré présent. Et voici que soudain, ils apprenaient qu'ils venaient d'être retrouvés, et que s'il le voulait, il pourrait aller revoir ces lieux si longtemps regrettés, et où il rencontrerait, pour les y accueillir, l'ombre vivante de leur jeunesse. Dès que M. H. Verus eut pris congé d'eux, se fut coiffé de son vieux feutre et son bâton à la main, eut recommencé sa course éternelle d'éternel errant, le projet qu'avaient formé simultanément Adam et Ève prit vite consistance. Aussitôt qu'ils se le furent mutuellement avoués, ils se mirent en mesure d'accomplir le long voyage qui devait, de leur petit village, les conduire en Mésopotamie. Grâce aux renseignements que leur avait fournis M. H. Verus, tout fut aisément et rapidement réglé. Ils convinrent de ne pas s'encombrer de lourds bagages et de se contenter de simples valises, comme il sied à des touristes modestes qui voyagent en seconde classe. Adam alla au chef-lieu pour prendre les billets et aussi pour acquérir sur ses économies un certain nombre d'actions de la compagnie. Cela fait, au jour dit, on vit Adam et Ève, bras dessous, se diriger vers la gare où le train les conduirait à Marseille, s'embarquer sur le paquebot en partance qui devait emporter les pèlerins de l'Éden retrouvés vers leur destination paradisiaque. Une fois à bord, Adam et Ève furent quelque peu surpris du petit nombre des passagers. Ils s'attendaient à mieux, mais on leur affirma que le précédent départ s'était fait en de telles conditions d'encombrement qu'il avait été décidé de limiter les places disponibles. D'ailleurs, la saison était un peu avancée, car l'été mésopotamien est fort chaud. L'affluence recommencerait à se produire quand le temps des grandes chaleurs serait passé. La vérité était que la publicité faite par la société panbiblique et les réclames de la compagnie d'exploitation du paradis retrouvé n'avaient pas produit tous les faits escomptés. M. H. Verru s'était laissé entraîner par son imagination orientale et avait donné à l'affaire des proportions qu'elle n'avait pas. Les prospectus répandus à profusion n'avaient pas provoqué l'enthousiasme sur lequel on comptait. Qui donc, dans le siècle éminemment raisonnable où nous sommes, s'intéressa encore à ces vieilles histoires des commencements du monde, à l'arbre de la science du bien et du mal, à la pomme, au serpent, à l'ange au glaive flamboyant, aux colères de Jéhovah, aux mésaventures de nos premiers parents? Pauvres gens qui n'ont connu ni l'imprimerie, ni l'électricité, ni le suffrage universel, toute chose infiniment plus importante que la découverte dans un lointain canton de l'Asie d'un vieux jardin abandonné, eût-il été le paradis terrestre. Le résultat de cette indifférence fut que le paquebot était parti à moitié vide. Adam et Ève furent appelés à dîner à la table du commandant et bénéficièrent sans supplément d'une des nombreuses cabines de première inoccupées. Le voyage d'Adam et d'Ève se fit donc en d'excellentes conditions, et le paquebot aborda sans encombre au bord du creek Persique, au petit port d'où un service d'autocar devait conduire les voyageurs à leur définitive destination. En touchant à terre, Adam et Ève avaient senti croître leur émotion. L'instant approchait où ils allaient revoir ces lieux si pleins de souvenirs. Aussi échangèrent-ils parfois de tendres regards en se serrant la main à la dérobée. Cependant, le pays que l'on traversait devenait, à mesure qu'on avançait, plus désert et plus chaud. Adam et Ève supportaient courageusement cette température brûlante qui ne s'apaisa un peu que lorsqu'on atteignit les bords de l'Euphrate. Son flot vaseux coulait entre des rives sablonneuses. Enfin, on arriva à une sorte de campement où s'élevaient de grandes baraques en planches, où étaient inscrits en grosses lettres hébraïques, pour plus de couleurs locales, ce mot « Éden ». À cette vue, Adam et Ève sentirent leur cœur battre à coups précipités. Les autocars s'étaient arrêtés, les voyageurs en descendirent, car on leur annonça que le programme comprenait un déjeuner par petite table avant la visite du jardin, qui n'était plus qu'à une faible distance derrière la haute dune de sable qui le dissimulait au regard. Tandis que l'on se dirigeait vers la salle à manger, Adam et Ève se consultèrent. Ne vaudrait-il pas mieux, pendant que tout le monde déjeunait, aller seul là-bas? Ils n'auraient ainsi nul témoin de leur émotion, et ils pourraient s'y abandonner sans contrainte. En ayant ainsi décidé, Adam et Ève prirent la route indiquée. Un soleil ardent chauffait la piste qui cheminait à travers un terrain sablonneux. Ils allaient lentement, car les battements de leur cœur alourdissaient leurs pas. Ils gravirent ainsi la dune brûlante, et parvenus à son sommet, ils s'arrêtèrent. Une sorte de vallon abrité offrait au-dessus d'une enceinte fermée par un mur de briques rougeâtres des cimes d'arbres dont les plus hautes la dépassaient d'une coudée. Dans ce mur s'ouvrait une porte. Adam, d'un geste, la montra à Ève. C'était bien là qu'ils avaient, en tournant la tête, aperçu debout l'ange à l'épée de feu qui les avait chassés du jardin le jour où ils avaient goûté aux fruits défendus. Ève avait posé sa main sur l'épaule d'Adam et ils s'avancèrent en s'appuyant l'un sur l'autre. Que de fois, durant leur long exil, s'étaient-ils ainsi mutuellement soutenus, et ce fut ainsi qu'ils pénétrèrent dans l'enclos. Il y faisait un profond silence. Parfois Adam et Ève s'arrêtaient un instant, et leurs regards se croisaient, mais ni l'un ni l'autre ne proférait une parole. Parfois Adam s'essuyait le front, car la chaleur était extrême. Tout baignait dans une atmosphère de feu. Aucun souffle n'animait l'air pesant. Sur un tronc d'arbre renversé, Adam et Ève s'étaient assis. Taciturnes, la tête baissée, ils regardaient à leurs pieds. Puis ils reprenaient, sous l'accablant soleil, leur marche muette. Ils errèrent longtemps ainsi jusqu'à ce que des voix se fissent entendre. C'était celle d'un groupe de voyageurs qui, ayant fini de déjeuner, s'avançait sous la conduite d'un guide. Ce fonctionnaire portait une casquette galonnée et s'exprimait avec un fort accent allemand. Le visiteur n'était pas plus d'une douzaine, les autres touristes ayant préféré attendre que la grosse chaleur fût tombée et quelques-uns se réservant pour la visite nocturne au clair de lune. Parmi ceux qui avaient bravé la température méridienne, on comptait un pasteur protestant et sa femme, deux Américains au visage rasé et qui fumaient de courtes pipes, un Russe terriblement barbu, une vieille dame à lunettes bleues, un Suisse, trois Italiens et deux journalistes qui prenaient des notes et faisaient des calembours. Le guide, qui suait à grosses gouttes, talonnait la compagnie, ayant hâte d'aller se rafraîchir, et poussait la petite troupe vers la sortie. Adam et Ève ne s'étaient pas joints à elle. Demeurés à l'écart, ils la laissèrent s'éloigner. Quand tout le monde fut parti, Adam jeta un long regard sur le jardin désert, entre ses murs rougeâtres, sur la pauvre végétation, sur l'arbre de la science du bien et du mal qui dressait dans la dure lumière son tronc ébréché, et se tournant vers Ève avec un mélancolique sourire, il laissa tomber ces mots. « Eh, Dieu, ma pauvre amie, que c'est cela que nous avons tant regretté ?» Et Ève ne lui répondit que par un petit geste désabusé, et tous deux songeaient à leur humble maison lointaine qu'ils avaient quittée sur le fallacieux appel du souvenir à leur modeste jardin, qui n'était peut-être pas un Éden, mais où il faisait si bon à prendre le café sous la tonnelle. Et ils éprouvaient un grand désir et une grande hâte d'être chez eux. Quand ils revinrent, ils apprirent que la compagnie formée pour l'exploitation touristique du paradis retrouvé venait d'être déclarée en faillite et que les actionnaires ne trouveraient de leurs actions que le prix du papier. Ils apprirent aussi que M. H. Verus s'était débarrassé juste à temps des siennes.